Donc, comme vous savez, ce soir, on est réunis pour, pas pour célébrer une nouvelle collection, c'est pour célébrer la renaissance d'une collection que j'espère, d'ailleurs, vous ne seriez pas là sinon, que vous connaissez. C'est une collection qui fait partie un peu de l'histoire de l'édition. Hein, on est là pour célébrer la renaissance de la collection Terre Humaine. Et je suis très heureux, moi, en tant que président de Plon, d'être d'abord accueilli par les équipes de Mola.
Merci.
C'est une certaine habitude, et d'accompagner le nouveau leader Maximo de la collection, Jean-Christophe Ruffin. Hein, c'est un titre qui est libre depuis 15 jours. Et Jean-Marie Blas de Robles, qui fait partie donc des nouveaux auteurs qui ont publié dans cette collection. Alors, je vais très rapidement leur laisser la parole, parce que vous n'êtes pas venu pour moi, vous êtes venu pour eux, vous avez bien raison. Juste pour vous dire, avant de parler d'avenir, il faut vous rappeler un tout petit peu que cette collection, elle a plus de 60, elle est née en 55, elle a été créée par Jean Mallory en 55, donc ça fait plus de 60 ans, donc c'est pas rien, et c'est rare des collections comme ça qui vivent pendant plus de 60 ans, et on peut toujours se poser la question, quand il y a une telle histoire, est-ce que cette collection est toujours d'actualité ? J'en suis bien sûr persuadé, parce que quand Jean Mallory a créé cette collection, c'est une collection de combat presque. C'est un combat en faveur des peuples, des ethnies qui étaient un peu menacées. C'est un combat en faveur des opprimés. C'est un combat également pour la transmission. Et je pense que ces combats sont toujours d'actualité, même peut-être plus que jamais. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité, chez Plon, relancer avec un nouveau directeur de collection, même si Jean Mallory est toujours présent, et des nouveaux auteurs, relancer cette collection parce que je pense qu'elle est toujours une nécessité dans le paysage éditorial. Voilà ce que je voulais vous dire et merci d'être venu pour assister à cette conférence. Et maintenant, je laisse la parole à Pierre.
Merci beaucoup, Vincent. Donc, merci d'être venu. Merci à Jean-Christophe Ruffin et à Jean-Marie Blas de Robles d'être là. Nous sommes à la librairie Mola, extrêmement heureux à double titre de pouvoir d'avoir pu organiser cette rencontre. La première, comme l'a évoqué Vincent Barbard, c'est parce que nous sommes extrêmement attachés à la collection Terre Humaine, qui est, de notre point de vue, je pense, depuis donc plus de 60 ans, l'une des plus importantes collections de sciences humaines, dans son sens le plus fort, à la fois de témoignages, d'analyses et de compréhension du monde dans sa diversité. Et la deuxième raison de la région, c'est effectivement ce passage de témoin, c'est-à-dire la certitude que les choses vont continuer et qu'il y a toujours en 2016 la pertinence d'avoir une telle collection. Ce qui est très intéressant par ailleurs, et on y reviendra évidemment, c'est le fait que, en l'occurrence, nous avons, pour parler de cette collection de sciences humaines, pour parler de cette collection de témoignages, nous avons deux écrivains qui sont là et c'est aussi des écrivains qui ne sont pas que des écrivains. Alors, juste avant d'en venir au sujet qui nous réunit, permettez-moi de vous les présenter très brièvement. Jean-Christophe Ruffin, vous avez été à la fois médecin, diplomate, responsable humanitaire. Depuis une vingtaine d'années, on vous connaît surtout au travers de votre œuvre d'écrivain. Tel que Rouge Brésil, évidemment, qui obtint le prix Goncourt en 2001, Immortelle Randonnée, ou plus récemment Checkpoint, qui vient de reparaître en poche. Depuis 2008, vous êtes membre de l'Académie française. Et donc, c'est effectivement en tant que nouveau directeur de la collection Terre Humaine qu'on a le plaisir de vous recevoir. Jean-Marie Blas de Robles, vous avez fait divers métiers. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez une grande activité d'archéologue et aussi parce que vous êtes, surtout désormais à nos yeux, un écrivain. Vous êtes connu, la plupart vous êtes découvert en 2008 au travers de ce livre singulier et considérable qui s'appelle « Là où les tigres sont chez eux » paru chez Zulma. Et vous avez fait paraître plus récemment « L'île du point Nemo » qui est un livre tout à fait étonnant de talent narratif et de livres d'aventure tel qu'il peut exister d'un point de vue moderne. Donc, on vous réunit aujourd'hui en tant qu'écrivain, mais en tant qu'auteur et directeur de Terre Humaine. Simplement, effectivement, mais j'insiste un peu sur cette dimension d'écriture parce que je pense qu'elle a toujours été présente dans Terre Humaine. Par exemple, moi je considère qu'un livre comme Louons maintenant les grands hommes de Hadji est probablement l'un des plus beaux livres et de littérature et de description autour de la condition des fermiers pendant la Grande Dépression américaine. Alors peut-être pour commencer avec vous, Jean-Christophe Ruffin, qu'est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre propre représentation, attachement? Qu'est-ce que c'est que Terre humaine pour vous avant même d'en être le directeur?
Merci, bonsoir à tous. Avant de répondre à votre question, je voudrais me faire l'interprète d'un message de Jean Mallory, parce que je l'ai vu ce matin et il ne pouvait pas malheureusement être parmi nous ce soir, mais il nous a envoyé un message que je vais lire, très bref, mais qui traduit l'intérêt qu'il portait à cette réunion et son attachement à la librairie Mola. Donc, si vous me permettez, j'ai lu ça dans quelques minutes. Donc, il écrit « Honneur à la librairie Mola ». Qui, dès 1960, a soutenu très particulièrement la collection Terre humaine, que j'ai fondée, c'est lui qui parle, aux éditions Plomb en 1954, avec Les derniers rois de Thulé, première œuvre d'anthropologie narrative et réflexive sur les Inuits du pôle, suivie de l'exceptionnel Triste Tropique de mon ami Claude Lévi-Strauss, qui a voulu soutenir et illustrer la pensée sauvage, si mal comprise des peuples premiers, aussi bien chez les gouvernements coloniaux que dans les universités et chez les élites. Le musée de l'homme en est une expression, il a souvent été apprécié par ses visiteurs comme un cimetière sous la lune d'une société révolue. La collection Terre humaine est un mouvement d'idées révolutionnant notre regard sur les forces en jeu dans l'histoire d'une nation. Il rappelle que la pensée du peuple est très particulièrement d'hommes et de femmes ne sachant ni lire ni écrire, peut être considérée, comme c'est le cas dans Terre humaine, comme d'égale importance avec de grands philosophes et écrivains comme Victor Segalen et Émile Zola. Le livre est le contrepoint de l'image, l'image qui fascine autant qu'elle encourage une certaine paresse à remettre en question une première émotion sensorielle. Le livre est l'ami de tous les jours et l'ennemi des idéologues. Ce n'est pas sans raison que les régimes totalitaires comme le nazisme ont très tôt mis le feu aux ouvrages jugés subversifs. Aujourd'hui, sous couvert du populisme, le risque encourageant la violence et la dictature renaît. Dans la crise majeure que nous vivons, le français a peur, doute, attend, mais attend quoi? Les élites restent muettes. C'est alors que nous risquons d'avoir une détestation de la démocratie et nous pouvons avoir ce qui s'est passé en Allemagne. La librairie Mola est peut-être le médecin à cette crise, double titre. Le livre est son traitement remède. Un solennel hommage doit être rendu à la librairie Mola, la première librairie indépendante en France par sa puissance et son réseau. Je dois lui dire toute ma gratitude. Je la remercie d'encourager la découverte des 110 ouvrages de la collection Terre humaine. Et voilà, donc c'est ce message qu'il voulait vous transmettre. Il y tenait beaucoup. Et je trouve d'ailleurs qu'il est assez synthétique et qu'il répond en partie à la question que vous me posiez, ce qui va me permettre de ne pas le faire. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est la vision qu'il a, lui, et c'est très important parce que je voudrais vraiment souligner qu'il n'y a pas dans cette renaissance de Terre humaine de solution de continuité, il n'y a pas de rupture. Nous nous situons, je me situe, et je pense que les éditions Plomb aussi, dans la continuité de l'œuvre de Jean Mallory. Cette collection est une sorte de monument dont on pourra parler plus en détail parce qu'elle est formée de plusieurs courants, elle est hétérogène en fait derrière son apparente unité. Mais Jean Mallory est toujours là et au fond l'idée c'était de prolonger son action dans l'esprit qu'il a mentionné là, c'est-à-dire un esprit d'intervention, de résistance. Ce ne sont pas des livres gratuits qu'il a fait, ce sont des livres qu'il a toujours conçus comme s'inscrivant dans une époque qui a changé puisque ça a commencé après-guerre, qu'évidemment les situations ont beaucoup changé, mais avec des constantes et notamment cette volonté de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas et surtout d'accompagner la mondialisation, les transformations du monde en ayant toujours pour souci de témoigner de l'humain dans des formes diverses et dans des formes méconnues et dans des formes souffrantes souvent puisqu'il s'agit de peuples qui sont souvent qui connaissent souvent la violence et l'oppression. Voilà. Alors, d'un mot, moi, je dirais, pour terminer, que moi, j'ai une longue, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, une longue pratique de lecture de cette collection Terre humaine, à tel point que quand on m'a proposé de diriger cette collection, j'ai d'abord trouvé ça presque outrecuidant, parce que d'abord, je ne suis pas éditeur, et puis j'ai trouvé que c'était justement un monument. Alors, on vous dit, voilà, tu prends la tour Eiffel, puis tu fais un étage de plus, c'est compliqué. Donc, je ne l'ai accepté qu'à une seule condition, c'était, un, de le faire sous la tutelle, sous la présence permanente de Jean Mallory, tant qu'il est parmi nous, et puis de le faire collégialement avec un comité dont on pourra parler, qui fait qu'aujourd'hui, cette collection est l'expression quand même d'un groupe de gens et non pas d'une seule personne. Alors, en fait, la particularité dans ces ouvrages, comme je disais pour commencer, c'est qu'effectivement, ils ont été conçus sous une forme militante dès le départ. Les premiers rois de Thulé procèdent d'une, on ne peut pas dire d'une découverte, d'une rencontre fortuite, puisque Mallory, se trouvant chez les Inuits, c'était tout à coup, a découvert la présence d'une base militaire secrète, donc dans ces régions polaires, et il s'est rendu compte qu'il y avait une sorte d'intrusion comme ça de la pire modernité qui soit à l'époque, qui était celle de la guerre froide, doublement froide d'ailleurs, dans ces régions polaires. Et au fond, il en a témoigné à travers ce livre. Bon, il est allé, c'est marrant, il me racontait ça ce matin. Il était dans un square avec sa femme et son petit enfant, il promenait, et en fait, il se baladait. Il avait cette idée de témoigner de ce qu'il avait vu au pôle, là. Et comme il était tout près des éditions Plomb, il a poussé la porte des éditions Plomb. Je suis désolé de le dire pour les éditions Plomb, ça n'est pas un choix véritablement idéologique, mais c'était pas loin. Et c'était pas loin, donc il y est allé. Et il a frappé, et puis il y avait des gens qui attendaient, etc. Et il a rencontré le directeur éditorial de l'époque avec lequel il a créé une sorte de lien avec l'idée de publier ce premier livre et derrière d'avoir une collection, ce qui était totalement bizarre, parce que quand vous n'avez même pas publié un livre, de prétendre qu'il va y avoir une collection derrière, c'est complètement curieux. Mais ils ont accepté. Et à ce moment-là, il a cherché au fond une continuité. Et il me disait un truc amusant. Il me disait, finalement, moi, je n'avais pas vécu ça comme ça. Je ne sais pas comment vous l'avez perçu. Il me disait, au fond, l'idée, c'était de dire qu'il s'agissait de mettre en scène des hommes en rupture avec eux-mêmes ou en opposition avec eux-mêmes. C'est curieux, ce sont ses propres mots. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est des hommes en rupture avec eux-mêmes? Ça veut dire probablement des créateurs ou des scientifiques, peu importe, qui sont pas bien dans leur monde, finalement. Alors, lui, il n'était pas bien dans le monde universitaire. Finalement, parmi les anthropologues, il n'a jamais été tellement apprécié. Et il a créé son propre espace, en quelque sorte. Et après, il en a trouvé un deuxième qui était Lévi-Strauss, qui, à cette époque-là, traversait une période vraiment très, très mauvaise. Il avait été recalé à plusieurs reprises à des élections au Collège de France, etc. Il était attaqué frontalement par des intellectuels, etc. Et Lévi-Strauss se sentait perdu. Et il me racontait qu'il s'était rencontré à la Romerie martiniquaise, c'est amusant, sur le boulevard Saint-Germain. Et que Lévi-Strauss me dit, de toute façon, ça ne va pas vous intéresser, je suis foutu. Voilà. Et en parlant un petit peu de ce qu'il avait vécu au Brésil en suivant sa femme, d'ailleurs, qui était plus anthropologue que lui, parce que lui était plutôt philosophe, il l'a amené à écrire ce livre qui était Triste Tropique, et dont évidemment le succès, qui n'a pas été immédiat, a été considérable. Voilà. Alors, moi, j'ai accompagné de loin en loin, je ne les ai pas à cette époque-là tous lus, mais évidemment j'ai été marqué par un grand nombre de titres de cette collection, comme beaucoup, parce qu'ils sont là, parce qu'il y a un aspect qui manque à beaucoup d'autres collections, si je puis dire, où, c'est-à-dire la permanence. À un moment où les livres disparaissent vite, les livres de Terre humaine sont là et ils restent là. Et ils restent là longtemps. Et les livres que vous avez mentionnés, Maintenant les grands hommes, par exemple, c'est un livre très ancien, mais qui est toujours là. Voilà, donc l'idée, c'est de poursuivre cette œuvre, ce qui ne va pas être facile.
Sachant que ce qui est effectivement important et l'une des marques de ces continuités, c'est le fait que dans les deux nouveaux volumes que vous faites paraître, l'ensemble du catalogue est rappelé à la fin. Et effectivement, quand on regarde ce catalogue, il est extrêmement impressionnant du nombre de titres qui sont marquants, qu'on connaît ou qu'on a lu. Ce que vous dites sur la personne en rupture par rapport à son propre milieu, ça me semble effectivement extrêmement important. On peut le dire aussi par rapport à ce que dit Jean Mallory sur le fait que c'est aussi la prise de parole de personnes ou de peuples qui, la plupart du temps, effectivement, n'ont pas la parole ou n'ont pas de parole écrite. Si on prend, pour prendre l'un des titres les plus fameux, le Cheval d'Orgueil, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est aussi le livre de quelqu'un qui, à la fois, voit ou a vu un monde disparaître. Et il appartient intégralement, et je pense que c'est une des grandes forces du livre de Jacques Azéliaz, c'est qu'il appartient fondamentalement à ce monde-là, et en même temps, il n'y appartient plus. Et que le livre naît de ça aussi, que, comme vous le dites, c'est probablement ça. Et dans les deux livres que vous faites paraître, La Sentinelle de Fer de Roland Villela, c'est aussi donner la parole de quelqu'un qui, dans le monde, on y reviendra vers la fin de la conférence, qui est donc le témoignage d'un bagnard, d'un bagne de Madagascar, qui est un témoignage, enfin, vous verrez, mais qui est absolument ahurissant à la fois et de force en tant que témoignage et de ce qu'il raconte, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est quelqu'un tout d'un coup a la parole alors que normalement il n'aurait pas dû l'avoir. Et je pense que c'est vraiment l'un des sens de la collection.
Oui, mais alors, justement, Mallory me racontait que, fait, pour Jacques Azéliaz, ça s'était fait de la manière suivante. Il y avait une émission de télévision de voisins qui s'appelait Les Conteurs, et il a vu. Donc ils allaient se balader un peu partout en France et jusque là ils publiaient que des livres qui portaient quand même plutôt sur des pays lointains ou des en France. Donc il a vu ce témoignage de ce breton, enfin parlant de, et il a demandé à revoir le film, ce qui était à l'époque compliqué, il n'y avait pas encore toutes les facilités pour faire ça, et il a pris contact avec Jacques Azéliaz qui en fait, ne voyait pas très bien ce qu'il voulait. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, il a mis 8 ans à écrire le livre. Mais 8 ans, parce qu'au fond, il racontait, mais c'est une des caractéristiques, je trouve, de cette collection. C'est bien de donner la parole à des gens qui sont sans voix, mais précisément parce qu'ils sont sans voix, ils n'ont pas l'habitude de parler. Et il faut les conduire, et encore moins d'écrire. Et donc, il faut les conduire à écrire. Alors, c'est là où je dis que la collection a plusieurs lignes. C'est parce qu'en réalité, il y a plusieurs manières de faire parler les gens qui n'ont pas de parole publique. Il y a une manière qui consiste effectivement à recueillir leurs témoignages. Mais il faut quand même la médiation d'une écriture, parce que ça, c'est quand même une des exigences de la collection, c'est sa qualité littéraire. C'est une collection littéraire, malgré tout. C'est pas des thèses qui sont publiées, ce sont vraiment des textes. Et donc, tout le monde n'est pas capable de le faire. Alors, soit, effectivement, il y a la médiation de quelqu'un. Bon, c'est le cas, par exemple, pour le bagne de Madagascar. Il est là, finalement, interagit avec les personnes qu'il voit, qu'il rencontre, pour les faire parler et pour nous faire entendre leur voix. Soit il s'agit de témoignages, ensuite avec des images en miroir, on en parlera tout à l'heure pour Pachot, c'est le travail qu'a fait Jean-Marie Blas de Robles à partir d'un témoignage, et il y a cette espèce d'aller-retour entre un premier témoignage et un second, voilà, qui interagissent. Puis après, il y a aussi des écrivains, tout simplement, qui ont publié dans la collection. Par exemple, vous avez un des premiers livres, c'était un livre de Ségalène, Les Immémoriaux. Ségalène était mort, ça a été retrouvé, ce sont des textes qui ont été retrouvés par sa veuve, qui ont été publiés à ce moment-là. Mais vous en avez d'autres. Vous avez Jacques Lacarrière, par exemple, qui a écrit L'été grec dans cette collection. Vous avez Dominique Fernandez, qui a écrit sur le baroque, je ne me souviens plus comment était intitulé précisément le livre, etc., etc. Donc vous avez carrément des écrivains qui, à ce moment-là, se saisissent d'un certains sujets. Voilà. Et puis, en dernier point, vous avez des anthropologues, c'est-à-dire vous avez des scientifiques. Bon. Mais ces scientifiques, on leur demande, enfin, il leur a été demandé, puis on va essayer de continuer, d'écrire proprement. C'est pas toujours facile, parce que il s'agit pas de jargonner, il s'agit pas, encore une fois, de transcrire des thèses, etc. Il s'agit de transcrire des émotions et une réalité humaine, et donc de le faire dans des conditions qui sont celles d'un texte véritablement exigeant et accessible. Voilà, ce qui n'est pas... voilà. Alors toutes ces lignes-là, finalement, qui se sont tissées au fil du temps, bah, elles offrent beaucoup de possibilités. Et évidemment, pour recommencer, pour redémarrer la machine, parce que la machine existait toujours, mais enfin, il faut bien dire qu'il y avait moins de publications. Et puis, justement, un peu souvent, parfois, tomber dans le travers un peu, universitaire. Ouais. Voilà. Donc, pour rompre avec ça, on a choisi deux textes qui... en fait, ne couvre pas l'ensemble du spectre parce qu'il est très vaste, mais qui, donc, et là, je vais vous donner tout de suite la parole, mais qui, pour une part, sont le texte d'un écrivain qui nous présente une sorte de témoignage, un témoignage, mais en liaison avec sa propre expérience du même terrain, et puis un autre qui est plutôt presque un témoignage brut, mais quand même avec la médiation de cet auteur qu'on découvre, hein, parce que Villela n'avait pas écrit jusqu'à présent. C'est une sorte de navigateur qui vit sur son bateau dans l'océan Indien, un peu partout, etc., et qui se révèle quand même un grand talent d'écriture, voilà, et qui donne la parole en même temps à des personnages qu'il a rencontrés. Voilà.
C'est à la fois vous répondez aux questions par anticipation, vous faites les transitions, c'est formidable.
Non, mais c'est très bien. Je peux me dire que je fais Mallory, puis là,
voilà. Voilà, maintenant c'est. Voilà, donc maintenant, comme vous le dites, effectivement, ça va être autour de Jean-Marie Blas de Robles, avec effectivement, et ce qui me semble important, donc ce texte en Libye sur les traces de Jean-Raymond Pachaud. On peut dire qu'effectivement, une des dimensions qui n'était pas très présente jusqu'ici dans la collection Terre humaine était la dimension relative à l'archéologie, qui jusqu'ici n'avait pas de traces particulières. Or, avec ce livre-là, on est au cœur de cette question-là, de la question archéologique. Et ce qui est absolument passionnant, on va y venir, c'est que ça montre de quelle façon l'archéologie, surtout quand elle est faite à la fois à votre façon et à la façon de Jean-Raymond Pachaud, vient mélanger et l'ethnographie et l'écriture. Et on l'évoquait juste avant, le dessin, puisque Jean-Raymond Pachaud fait tout un tas de relevés. Donc, est-ce que vous pouvez... Et ce livre est, comme vous le disiez, un livre en miroir. À la fois, c'est votre nom qui est en gros et gras sur la couverture, et en même temps, le cœur du livre, c'est le texte de Jean-Raymond Pachaud, que, à la fois, vous entourez, vous annotez, vous accompagnez, vous éclaircissez, en donnant tout un tas de données. Donc, c'est vraiment un livre quasiment à deux auteurs. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, peut-être nous donner... deux cadres, à la fois celui de la rencontre avec Jean-Raymond Pachaud, dire un peu de quoi il retourne, puisqu'il s'agit donc d'un texte du début du premier quart du 19e siècle, et dont le cœur, en fait, est la redécouverte de Cyrène et de la Cyrénaïque, que peut-être tout le monde n'a pas ici parfaitement en tête spontanément. En tout cas, moi, c'était mon cas avant de lire votre livre. Donc, nous donner un peu le cadre général de ce livre.
Voilà, ça rejoint un petit peu la discussion que nous avions à l'instant sur le cadre de la collection elle-même. Il se trouve que Jean-Raymond Pachaud est l'homme d'un seul livre, celui que j'essaye de rendre public ici, mais c'est un personnage surtout à qui j'essaye de rendre hommage, parce que même s'il a eu la parole, il n'avait plus la parole depuis 1829. Et son livre, bien qu'ayant connu un succès énorme lors de sa parution, est tombé dans les oubliettes de l'histoire aussitôt après, et il n'était connu strictement que des spécialistes d'archéologie de la Libye. Donc, c'est même pas quelque chose qui était connu du milieu archéologique en général. Il fallait vraiment s'être déjà intéressé à la Libye et à son histoire particulière pour avoir connaissance de ce texte. Il se trouve que moi, j'ai été intégré à la mission archéologique française qui travaille en Libye, et particulièrement sur le site d'Apollonia, qui est le port de Cyrène en Cyrénaïque, en 1986, comme plongeur, archéologue, au service de l'archéologue Claude Saintès, qui dirigeait les fouilles sous-marines à l'époque, et sous la direction générale du professeur André Laronde, qui avait la direction et des fouilles sous-marines et des fouilles terrestres qu'il conduisait sur le site d'Apollonia. Et c'est vraiment dès ce premier été de fouilles, lors des nuitées que nous passions entre membres de l'équipe à éplucher les travaux de nos prédécesseurs pour essayer de comprendre le site sur lequel nous essayons de travailler, que j'ai entendu parler pour la première fois de Jean-Raymond Pachaud par André Laronde, le directeur de la mission, qui savait que j'étais écrivain. J'avais déjà publié plusieurs romans, donc il connaissait mon attrait pour la littérature. Et il m'avait dit, il faut absolument que vous lisiez Pachaud, d'une part parce qu'il est indispensable pour la connaissance préalable que vous devez avoir de ce pays, des sites que vous êtes en train de fouiller. Il est parmi les tout premiers à les avoir redécouverts depuis leur disparition dans l'Antiquité. Mais c'est aussi quelqu'un qui va vous plaire, quelqu'un qui a une personnalité, qui a un style, qui a, ça devrait être une rencontre. Et ça n'a pas manqué. C'est un livre que j'ai dévoré en quelques jours. Et c'est un texte et un personnage et une histoire très émouvante que je vais essayer de vous résumer, mais qui est longuement détaillée dans le livre, qui m'a accompagné pendant les 25 ans de fouilles en Libye que j'ai poursuivi ensuite. Alors pourquoi c'est si émouvant d'abord ? Parce que ce personnage, on ne connaît strictement rien de lui, sinon sa date de naissance. Il est né en 1794, c'est un Niçois. On sait que ses parents le mettent en pension à Tournon. On sait qu'il n'y fait pas de brillantes études, mais qu'il s'y passionne pour la poésie, le dessin et la botanique. Trois choses que nous allons retrouver ensuite comme des armes ou des flèches particulières à son carquois. On sait ensuite très précisément qu'à la mort de son père, cela correspond à sa majorité, il s'en va passer 2 ans en Italie, dilapider l'héritage paternel. On ne sait pas ce qu'il fait en Italie, mais on suppose qu'il s'y confronte aux vestiges antiques, puisque c'est ce qui va devenir sa passion. Et ensuite, on le retrouve à Paris, en véritable crève la faim. Il essaie de faire fortune dans la peinture de genre. Il travaille dans l'atelier du peintre Isabey, qui lui est connu. Mais de Pachaud, on ne connaît rien. On sait qu'il ne vend pas ses tableaux. Il ne reste pas un seul tableau de lui, ni même son portrait. À ce point que il n'a plus de quoi vivre à Paris. Et son frère, qui lui est un commerçant aisé, installé à Alexandrie, dans les parages du sultan de l'époque, le fait venir à Alexandrie pratiquement pour lui sauver la vie, parce que son jeune frère n'arrive pas à vivre à Paris de son dessin et de sa poésie. Donc, vous voyez, ce jeune homme, il arrive à Alexandrie pour la première fois en 1823. Il est tout jeune. Il ne sait pratiquement rien faire à part dessiner. Et c'est ce qu'il va faire. Bon, son frère le nourrit. Et il commence à dessiner tout ce qu'il voit au Caire, les ruines. Il entend parler des ruines égyptiennes pour la première fois. Bon, il s'y rend, il les dessine. Et lui vient, là aussi, on est obligé de faire des supputations parce qu'on n'a aucun récit de sa part sur la naissance de cette passion. Lui vient le désir d'explorer des contrées peu ou pas du tout connues de l'Égypte dans laquelle vit son frère. Et on le voit une année après son arrivée à Alexandrie, après avoir dessiné et pris un peu ses marques au Caire et à Alexandrie, on le voit monter une expédition, trouver de l'argent auprès d'un mécène et partir avec une petite caravane explorer les oasis du Delta. Il fait un premier voyage de 3-4 mois. Il revient à la mort de son mécène, obligé donc à Alexandrie. Quelques savants voient son travail, s'extasient sur la qualité de ses dessins et sur la qualité de ses notes archéologiques. Donc ce n'est pas simplement quelqu'un qui voyage et qui dessine comme c'était le cas jusqu'à présent. C'est plus un suiveur de Chateaubriand, c'est-à-dire il est dans cette lignée de voyageurs qui se mettent en scène eux-mêmes et qui ne se contentent pas de donner des notes à usage scientifique, mais qui font part de leur émotion devant la beauté, font part de leur crainte ou de leur effroi devant certaines inégalités. Il y a tout un travail anthropologique et ethnographique qui se fait en même temps. Au cours de ce voyage autour des oasis du Nil, apprécié par ses savants, il a entendu parler de la Cyrénaïque. Il a entendu parler d'un pays qui jouxte donc l'Égypte, dans lequel, lui disaient ses guides arabes, on pouvait accéder à de très nombreuses ruines que personne n'avait jamais vues, etc., etc. Et donc lui vient le désir de monter une seconde expédition autrement plus dangereuse, autrement plus longue, pour aller découvrir cette Cyrénaïque dont plus personne n'avait entendu parler depuis les années 1000. Les Arabes ont envahi toute cette région byzantine à l'époque en 1644. Et dès l'an 1000, quand les premiers voyageurs arabes, les Ibn Battuta par exemple, passent sur des villes comme Leptis Magna, comme Cyrène, qui étaient des métropoles antiques absolument extraordinaires, des rivales d'Athènes ou des rivales de Rome pour Leptis Magna, ils n'y trouvent rien. Tout est enfoui sous le sable. Ils ne décrivent rien. Ça a disparu. Donc c'est tout un monde antique qui gisait là et dont plus personne n'avait connaissance. Et au moment même où il trouve le mécène qui lui permet d'acheter les quelques chameaux dont il a besoin, de louer les services de deux ou trois guides, d'un Nubien, d'un jeune orientaliste qui va s'occuper des langues avec lui, la Société nationale de géographie de Paris met au concours justement un voyage en Cyrénaïque. Les savants de la société disent « nous offrons une bourse de 3000 francs, une très très belle somme à l'époque, pour celui qui se rendra dans ce pays et nous donnera enfin des nouvelles de Cyrène, de ces villes antiques qui n'étaient plus connues que par les sources antiques, par Hérodote, par Pausanias, par les textes grecs et latins. » Et donc, poussé par cette bourse, Pacho part et fait ce voyage. Donc il part d'Alexandrie, je ne sais pas si vous visualisez un peu la côte, et il traverse, il suit la côte vers l'est, donc jusqu'à Tobrouk, jusqu'à la limite... Vers l'ouest, pardon. En bon méditerranéen, pour moi, le sud est toujours vers le bas, donc j'ai toujours eu du mal, même en étant en Libye, de mettre le nord du mauvais côté. Et donc il part vers l'ouest jusqu'à Tobrouk et il traverse cette région qu'on appelait à l'époque la Marmarie, c'est-à-dire toute la région qui va d'Alexandrie en passant par Tobrouk en Libye actuelle jusqu'à Derna en Libye actuelle, qui est la limite même de la Cyrénaïque. Là se trouve une région montagneuse qu'on appelle la Cyrénaïque à cause de la ville de Cyrène qui s'y trouvait, fondée par les Grecs au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il va visiter donc toute cette région, village par village. Il va s'enfoncer dans tous les sentiers qu'il trouve. Il n'y a pas une seule pierre qui lui échappe. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Moi qui ai vécu et qui ai essayé de mettre mes pas réellement dans les siens, je n'ai pas encore vu la moitié des choses qu'il décrit. Et aujourd'hui, les archéologues, il nous est arrivé en 2004 de revoir pour la première fois des tombes qu'il a décrites et dessinées en 1825. Donc des choses qui avaient redisparu depuis son passage. Donc vous voyez un petit peu aussi l'intérêt scientifique d'un texte pareil. Donc il fait un périple. Il traverse toute la Cyrénaïque, il redécouvre Cyrène, Apollonia, Ptolémaïs, toutes les grandes villes de ce qu'on appelait la Pentapole, Pentapolis, les cinq villes de la Libye antique. Il redescend par Benghazi, qu'il visite aussi, qu'il décrit également. Et ensuite, il part vers le sud, vers le Fezzan actuel, et il visite des oasis où il est soit le premier, soit le deuxième à passer depuis toujours, les oasis de Maradeh à l'ouest, et en partant vers l'est, l'oasis d'Aogila, l'oasis de Siwa, qui se trouve aujourd'hui en Égypte et où se trouvait le fameux temple de Zeus Amon, l'oracle que visite Alexandre avant de partir faire sa conquête, et il revient au Caire avec sa moisson de dessins et de notes sur tout ce qu'il a vu. Car ce jeune garçon, il part, je vous l'ai dit, avec quelques chameaux, quelques aides et un orientaliste, mais il part aussi avec une bibliothèque entière. Il a tout Hérodote, il a tout Polybe, il a tout ce qu'il lui faut comme matériel pour décider sur place de ce qu'il voit, parce qu'il est obligé de faire des démonstrations à partir des textes antiques. Et en fait, il ne se trompe pratiquement jamais, vu la masse de tout ce qu'il a rapporté, et il identifie réellement toutes les villes que nous avons, nous, continué à fouiller après, nous, archéologues français, italiens, anglais, etc. Il revient à Paris, son travail est salué par toutes les instances universitaires. On décide de lui attribuer la bourse, les fameux 3000 francs. On décide que son livre doit être absolument publié et bellement publié chez Firmin Didot avec les planches. Donc, un gros ouvrage qui va prendre du temps et demander beaucoup d'argent. Et voilà que le pauvre Jean-Raymond Pachaud se fait voler sa bourse dans la chambre d'hôtel miteuse où il habite. Et il se retrouve à la fois célèbre et donnant des communications à l'Institut ou à la Société de géographie, et aussi pauvre que par devant. Qu'avant son départ. Première chose. Deuxième chose, on apprend que deux Anglais, les frères Beechey, ont visité le même pays que lui 2 ans avant lui, en 1822. Et que ses frères ont fait un travail admirable et qu'ils s'apprêtent à publier leur livre en Angleterre. Et donc là, c'est un sacré coup aussi, parce que ça lui enlèverait la célébrité et de cette découverte si ce livre paraissait avant le sien. D'où la décision, parce que la publication anglaise prend du temps, manifestement, d'où la décision de Firmin Didot de publier son livre en fascicule, non pas d'un seul tenant, mais au fur et à mesure que Pachot l'écrivait. Ce qui se produit, donc les premiers fascicules sortent, donnent le renom que Pachot attendait, mais c'est trop dur pour Pachot. Il y travaille nuit et jour, il met au point son texte, il met au point ses gravures, ses dessins. Le temps passe, Firmin Didot repousse toujours la publication de l'ouvrage complet, même si les fascicules continuent à sortir. Et en 1829, trois jours après l'anniversaire de ses 30 ans, ce pauvre garçon se tire une balle dans la tête, d'abord brûle tout ce qu'il a, tous ses manuscrits, dont son voyage aux oasis, que tout le monde avait admiré et qui a disparu, brûle tous ses dessins, tous ses manuscrits, se tire une balle dans la tête, se rate, se tranche la gorge et disparaît. Et son ouvrage sort chez Firmin Didot trois semaines après son décès, avec une nécrologie désolée, mais une nécrologie quand même. Ce livre obtient le grand prix de l'archéologie pour l'année et disparaît ensuite complètement. Non pas qu'il soit inférieur à celui des frères Bichet, ils se complètent tous les deux et sont indispensables pour tout étudiant aujourd'hui qui s'intéresse à ce sujet, mais parce que la mode est à d'autres pays. Caillot vient d'entrer à Tombouctou, on va en commencer à entendre parler de Burton, des sources du Nil, de Stanley, de Livingston. L'intérêt se déplace plus vers l'Afrique noire que vers l'Afrique du Nord. Et pour en terminer, donc vous voyez, ça c'est le côté émouvant, de presque romanesque de cette histoire, mais qui s'allie à un véritable talent de dessinateur qu'il avait et de botaniste, parce que il revient avec un herbier, il dessine toutes les plantes qu'il peut voir, mais aussi un réel talent littéraire totalement inattendu. C'est un écrivain que nous avons à faire. Et quelqu'un, encore une fois, qui n'avait pas la parole, qui n'était pas destiné à ça, qui n'était pas un universitaire, qui n'était pas un scientifique, qui était un vague poète et un peintre raté, dirions-nous aujourd'hui, qui donne à la postérité un livre absolument exceptionnel. Moi, c'est à ce livre et à ce talent littéraire que je voulais rendre hommage, tout en mettant en regard son travail scientifique de l'époque, dans une Libye qui était où on risquait sa vie au moindre chemin, parce que c'était une Libye qui était en pleine guerre civile. Peut-être cela vous rappelle-t-il quelque chose aujourd'hui, où les tribus s'étaient libérées de l'emprise ottomane et donc vivaient chacune les unes contre les autres. Donc une Libye dangereuse, à multifacettes, qui ressemblait à la Libye que j'ai pu connaître et à celle qui existe aujourd'hui, avec les mêmes... nous, comme archéologues, on a failli mourir 5 ou 6 fois quand même. Il y avait des camps de Palestiniens d'entraînement qui jouxtaient nos camps de fouilles. On s'est fait tirer à la mitrailleuse lourde sur nos zodiacs parce qu'on avait dépassé de quelques mètres la zone de fouilles, etc., etc. Vous voyez pourquoi j'ai une certaine sympathie pour ce personnage, où j'ai parfois pu me reconnaître comme jeune archéologue à l'époque. Et c'est vrai que le très grand talent littéraire de Pachot, de mon point de vue, on le voit, vous l'avez évoqué, vous l'évoquez dans le livre, il y a un côté à la Chateaubriand, il y a un chapitre qui s'appelle « Camp arabe » dans lequel il décrit une scène où à la fois se joue un drame entre deux tribus et un orage, et qu'évidemment tout ça vient se mêler, qui est un très très beau, qui est presque un moment de bravoure dans le livre. Et il y a un autre moment, c'est que, comme vous l'avez évoqué, à côté de Cyrène, il y a une nécropole qui était probablement l'une des plus grandes nécropoles antiques, en tout cas, c'est ce qu'on en déduit au vu des restes qu'on y retrouve. Et c'est probablement, enfin, en tout cas de mon point de vue, l'un des plus beaux moments du livre, cette découverte de la nécropole, et qui est aussi, et ça, je voudrais simplement que vous reveniez un peu dessus, qui est en même temps un moment révélateur aussi du travail d'archéologue dans son ambivalence, qui est à la fois de faire revivre des temps, des lieux, des civilisations disparues, et en même temps de reconduire toujours le constat de sa disparition. C'est-à-dire, il y a toujours une dimension mélancolique dans l'archéologie. Il y a toujours une forme de tristesse à l'idée que, à la fois, la gloire de ce monde passe, que tout est transitoire, et ça, évidemment, et la nécropole est d'autant plus forte pour ça. Il le dit très bien à un moment que, au final, ce qui reste plus de sirènes, en fait, ce sont des tombes. Ce qui est... Alors, j'aurais simplement juste voulu citer un petit paragraphe où il dit cette idée-là et qui permet aussi de faire un petit peu entendre le style de Jean-Raymond Pachot. Donc, c'est juste au moment de la découverte de la nécropole. Il dit « Au reste, quelle que soit la valeur de cette foule de conjectures dont je bariole à chaque instant ce livre, il me serait aussi difficile de les passer sous silence que de les établir sur des fondements plus solides. » Elles seules donnent à mes yeux un peu de vie au lieu que je parcours. Sans elles, la pensée toujours froide et languissante se lasserait bientôt de l'aspérité des rocailles et du silence monotone des déserts. Elles m'ont soutenu dans ma longue migration en Libye. Puissent-elles soutenir de même celui qui voudra bien en affronter l'aride narration ? Et simplement pour dire qu'à la suite de ce paragraphe, vous-même, vous l'accompagnez d'un texte dans lequel vous dites qu'une partie de la nécropole a été détruite pour donner lieu à un projet immobilier.
Aujourd'hui, oui.
Voilà, aujourd'hui, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette notation qu'on entend là, à plusieurs reprises dans le texte, il interpelle le lecteur, Pachot, en disant « J'espère que vous vous ennuyez pas trop, que tout va bien. » Enfin, il y a un jeu comme ça. C'est là où vous dites, effectivement, on est bien au-delà du simple récit de voyage, comme il y en a... Surtout du récit de voyage oriental, comme le 19e, on a produit des dizaines et des centaines. Il y a une réflexivité, il y a une intelligence, il y a une vision de ce travail-là qui est assez
forte. On est dans la littérature, mais on est dans du Chateaubriand sobre, je dirais.
C'est pas difficile.
Chez un Chateaubriand qui serait modeste. Et on voit qu'il, quand il s'adresse au lecteur, c'est pour demander pardon de se livrer à ses réflexions. Alors que Chateaubriand ne demande pas pardon lorsqu'il s'étend sur ses réflexions magnifiques, certes, mais il y a ce côté-là. Et sinon, oui, mélancolie et archéologie, ne faut pas oublier que c'est un romantique, c'est un rousseauiste, ça n'est pas pour rien qu'il adore Chateaubriand. Chateaubriand est toujours vivant à son époque, c'est une étoile à son propre firmament. Et donc il y a cette mélancolie de la ruine et cette nostalgie de la civilisation disparue, mais que je ne partage pas, parce que c'est de l'ethnocentrisme, parce qu'un monde qui va, il est obligé d'écraser le monde qu'il a précédé, qu'une civilisation... qu'il ne peut pas y avoir de civilisation romaine sans une civilisation grecque enfouie, etc., etc. Donc il y a un dynamisme de la vie et de la civilisation, du fait civilisateur lui-même, qui va de l'avant et qui n'a que faire de la mélancolie. Donc, Donc, juste pour
oui, mais c'est pour bon ça aussi que je pense que tout le travail que vous faites, tout le travail d'édition que vous faites, le texte ne peut pas être livré brut, et il est extrêmement important, et je pense que c'est effectivement l'un des intérêts et l'importance de le faire paraître dans cette collection-là, c'est de donner à ce récit-là l'épaisseur, l'écart de distance du fait que, quel que soit son charme, son intelligence, il est aussi un texte de la fin des années 20 du 19e siècle.
Il est devenu lui-même un texte archéologique.
Exactement, tout à fait.
Il est donc fragmentaire. Et l'archéologie consiste à avoir affaire aux fragments, donc si possible à recomposer ce puzzle. C'est vraiment l'objet même de l'archéologie, et en dehors de toute mélancolie et de toute nostalgie. Mais c'est vrai que lorsque deux fragments se raboutent, il y a une joie de la restitution qui est exemplaire.
Simplement pour dire par ailleurs, comme vous l'avez évoqué au début, Jean-Raymond Pachot n'est pas que peintre et aussi écrivain, il est aussi botaniste, et entre autres il y a tout un chapitre sur une espèce de plante miraculeuse qui est le sylphion, que les antiques paraient de toutes les vertus, et qui s'échangeait à prix d'or. Enfin, il y a eu un commerce absolument considérable. Vous verrez, il y a à découvrir un chapitre assez étonnant justement sur l'espèce de commerce de la botanique assez stupéfiant.
Médicaments et condiments qui avaient fait la richesse de la Cyrénaïque à l'époque des Grecs. Dès les années 500 avant Jésus-Christ, Cyrène devient l'égale d'Athènes à cause du commerce qu'elle fait de cette plante qui croissait de façon endémique sur les plateaux cyrénéens, et qui se trouvait, dit-on, nous dit Pline, nous disent nombre d'auteurs, parée de mille et une vertus médicinales, mais qu'on utilisait aussi dans la cuisine. C'est un peu comme nous utilisons la truffe, où on ne pouvait pas faire un vrai grand repas sans y ajouter un peu de sylphion. Cette plante a malheureusement totalement disparu dès l'époque romaine. À l'époque byzantine, il est avéré qu'on n'en trouve plus un seul plant. Nul ne sait pourquoi, probablement à cause d'une surconsommation. On n'avait pas su du tout domestiquer la plante. Donc à force de la cueillir et d'en faire ce commerce, elle a fini par disparaître. Et aujourd'hui, il y a presque une sorte de sport auquel se livre déjà Pachot, qui est d'essayer de retrouver le sylphion, ce fameux sylphion, lorsqu'on se rend en Cyrénaïque. Et donc, il y a au moins une vingtaine d'archéologues qui ont cru l'avoir retrouvé depuis Pachot, deux ou trois avant Pachot, Pachot lui-même, d'autres depuis. Et l'histoire continue. Bon, je vous donne toutes les informations scientifiques les plus récentes qui disent que là, il y a de fortes chances que ce sylphion ressemble à une Margotia gummifera qu'on vient de mettre à jour en Algérie il y a 2 ou 3 ans, dont on est en train de procéder à l'étude pharmacologique pour voir si elle détient réellement toutes ces vertus que lui prêtaient les anciens, mais on en est là de l'état de la question.
Est-ce que, Jean-Christophe Riffin, vous pourriez nous présenter un peu ce texte extrêmement fort, extrêmement étonnant, qui est donc la Sentinelle de fer de Roland Villela, et qui est donc le témoignage à la fois transcrit et l'échange entre l'auteur et la personne qui a fait ce témoignage autour d'un bagne à Madagascar qui a été actif, si l'on peut dire, jusqu'en 2010. Donc tout à fait, là pour le coup, on n'est pas au 19e, on est sur un texte extrêmement contemporain.
Oui, c'est très difficile de le... C'est pratiquement impossible de le résumer, je crois qu'il faut le renvoyer vraiment au texte, simplement pour dire que c'est le fruit d'abord d'un hasard, c'est-à-dire que l'auteur est quelqu'un qui navigue dans cette région, qui donc est entré sur cette île, qui a rencontré plusieurs personnes, dont une en particulier dont il est devenu l'ami, et qui a incité les autres à parler, d'une certaine façon, qui a, par ses confidences, d'une certaine certaine manière, libérer la parole de ces anciens prisonniers. Et du coup, à travers cet aller-retour comme ça entre ce rapport avec ce personnage, les récits qu'il fait du bagne à son époque, cet aller-retour finit par dresser une sorte de portrait à la fois humain et puis de l'institution elle-même, qui est évidemment tout à fait effrayante. Mais si je peux dire un mot par rapport, pour relier les deux choses, et, enfin les deux sujets qui pourtant sont très loin l'un de l'autre, parce que c'est... Il y a quand même derrière ça une idée qui va courir. Enfin, j'espère qu'on parviendra à la développer au fond et à la faire revivre. C'est un peu l'idée de s'adresser dans ces livres, grâce à ces livres, à des terrains, des territoires dont on parle autrement aujourd'hui dans l'actualité. Par exemple, la Libye a été sous le feu de l'actualité de sinistre manière à plusieurs reprises. L'idée, c'est un peu d'éclairer le socle d'une certaine manière de ce qui... Alors, ça ne veut pas dire qu'on parle des choses... Il n'y a pas un lien direct, bien évidemment, hein, entre l'œuvre de Pachaud, les commentaires qu'ont fait Jean-Marie Blas de Robles et puis la situation politique actuelle. Mais l'idée, c'est quand même de regarder du côté de lieux dont on parle de façon extrêmement superficielle et de manière très limitée à l'actualité. Par exemple, parmi les projets de livres qui sont prévus pour l'an prochain, il y a un livre sur le Nigeria de Boko Haram, qui est un livre à la fois anthropologique, évidemment, mais qui parle d'une région dont on entend parler par ailleurs et autrement, à travers l'actualité la plus sanglante, des prises d'otages, etc. Et finalement, l'idée, c'est d'essayer de construire un socle de compréhension qui permette d'aller au-delà de cette actualité et d'éclairer quand même des zones du monde d'une façon un peu plus intelligente, un peu plus profonde, d'une certaine manière, en donnant la parole, si possible, directement ou indirectement, à ceux qui sont les acteurs de ces situations. Alors, ce ne sera pas évidemment facile, ce ne sera pas non plus systématique. Il ne s'agit pas de s'adresser que, évidemment, à ces endroits chauds du globe. Mais il y a quand même un petit peu cette idée, et encore une fois, conformément à l'intuition de Mallory du départ, puisque quand il a découvert cette base américaine au fin fond du pôle, il était à la fois dans l'extrême actualité et en même temps, en tant que spécialiste des Inuits, il était capable de faire le contrepoint entre ce qui était en train de se dérouler, qui était vraiment politiquement actif sur le moment, et puis la société dans laquelle tout ça se déroulait, qui n'était pas le vide, comme pouvaient le croire ceux qui installaient cette base, mais qui était une société humaine, avec son organisation, avec son histoire, avec ses enjeux. Donc voilà, alors c'est un petit peu l'idée. Bon, ce ne sera pas facile, mais de toute façon, d'abord, il nous a transmis quelque chose, Mallory, c'est que il a l'éternité devant lui. Alors, je connais ça dans d'autres institutions, en particulier au bord de la Seine, à laquelle j'appartiens, mais c'est pas mal d'avoir l'éternité devant soi, finalement, parce que ça nous découple d'un côté un peu hystérique de la production éditoriale. Finalement, voilà, on est tenu à rien. Je voudrais rendre hommage d'ailleurs aux éditions Plomb là-dessus, parce que je trouve qu'ils font un effort. Après tout, c'est une collection qui a comporté de très grands best-sellers. Vous parlez du Cheval d'Orgueil, ça en a été un, mais qui a aussi comporté des livres qui ont été beaucoup plus confidentiels. Il y a presque un côté service public, enfin, de faire vivre une collection pareille, de lui donner un avenir, alors qu'ils auraient pu... Bon, il y a d'autres collections qui sont apparues à la même époque, dans ces années 50 et 60, qui ont été des collections très prestigieuses et que personne ne s'est soucié de faire vivre. Bon, ben celle-là, l'idée, c'est quand même qu'elle est nécessaire, voilà, et que à travers ce support éditorial particulier, qui pose d'ailleurs plein de problèmes, parce qu'aujourd'hui, à l'époque d'Internet, est-ce que ça a encore un sens de publier des livres de 1000 pages, etc., anthropologiques, c'est pas évident, donc il faut revoir un petit peu tout ça, essayer de l'adapter, mais quand même, il y a là quelque chose qui nous paraît nécessaire, précisément parce que Il y a cette volonté de recul, cette volonté d'approfondissement, cette volonté de prendre du temps pour comprendre des situations, pour donner à comprendre, pour donner à entendre des voix qui ne sont pas audibles et qui pourtant sont essentielles pour comprendre la situation d'aujourd'hui. Voilà. Donc, mais en même temps, ces voix, elles sont difficiles à, j'allais dire, à imiter. C'est pour ça que je ne peux que vous recommander de lire les livres, et je ne vais pas les résumer moi-même. Mais voilà, il y a quelque chose de singulier dans ces témoignages qui n'existe nulle part. Et j'ajoute une dernière chose, c'est que dans le cadre de cette non pas renaissance, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas de cette remise en activité et en actualité de cette collection, il y est prévu aussi de publier les titres de son fonds, de les faire vivre, parce que, bien entendu, il est important de les nourrir avec des titres futurs, mais il est très important aussi de maintenir l'accès aux titres passés. Certains étaient tombés un peu en l'oubli, certains étaient épuisés, etc. Or, ils ont tous une actualité, enfin un intérêt absolument extraordinaire. C'est vraiment une mine d'or, cette collection. Et plus on s'y penche, plus on se penche sur elle, plus on regarde son catalogue, et plus on se rend compte qu'elle comporte des choses absolument uniques, que ce soit des auteurs français, que ce soit des traductions, parce qu'ils ont aussi pas mal publié de traductions. On parlait d'Agi, mais on pourrait parler de Tézigère, par exemple, qui a gardé toute son actualité. Je veux dire, Les Arabes des Marais, Le Désert des Déserts, etc., sont des livres qui, aujourd'hui, plus que jamais, quand on parle de Syrie, quand on parle d'Irak, quand on parle de péninsule arabique, sont des témoignages absolument indispensables et vivants. Enfin, il y a un côté, justement, lisible, vivant, frais, etc., éternel. Voilà. Donc on a du boulot, quoi. Voilà. Mais je sais pas comment ça va tourner, mais
bien. Tout finit toujours bien. Merci beaucoup, Jean-Christophe Ruffin et Jean-Marie Blaise de Robles. Merci de cette longue vie à Terre humaine.